parle aussi à vous. Et voilà, mais pour moi, c'est l'occasion ce matin, effectivement, d'abord de vous dire bonjour et puis aussi de partager quelque chose, mais j'aimerais commencer par deux informations. La première information, c'est que demain, du point de vue du calendrier de la Bible, parce qu'on n'a pas le même calendrier actuellement, mais dans la Bible, c'est les mois lunaires, et demain, c'est le premier jour du septième mois. Et ce jour-là est important dans le sens qu'il y a ce qu'on appelle une fête de l'Éternel. On connaît Pâques, on connaît la Pentecôte, parce qu'on fête ces fêtes, mais il y en a d'autres qu'on ne marque pas, mais qui sont aussi importantes. Et le premier jour du septième mois, c'est la fête dite des trompettes. Alors, la fête des trompettes, c'est le son de la trompette qui éclate, et puis ça annonce en fait la venue du royaume de Dieu. Donc, en faisant cette fête, on annonce quelque chose qui va venir. Et c'est demain. Et la trompette, on la trouve dans toute la Bible. Et je vous lis un des derniers versets dans l'Apocalypse, où il est dit « Le septième ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. » Elle disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Voilà la promesse. Et demain, en fait, il y a un hasard de calendrier quand même. Parce que demain, pour ceux qui lisent le plan de lecture de notre Église, vous allez voir dans la lecture de demain, vous allez lire plutôt, le son de la trompette. Alors, vous repenserez, vous dites, ah oui, c'est aujourd'hui la fête de l'Éternel. Mais voilà, il y a aussi une autre signification à ce jour des trompettes. C'est un jour de jugement qui commence. Ça, on aime moins, mais c'est le jour des jugements des nations. Et puis, je vous lis alors aussi un verset concernant ce jugement des nations. Qu'est-ce que c'est ? Dans Joël, il est dit « Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël. » Mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Et demain, c'est aussi particulier, parce que en fin de journée, il y aura un rassemblement à New York des nations. Et de quoi vont-elles discuter, ces nations d'Israël et du territoire? Et il y en a qui ont dit, oui, mais ça, c'est pas juste une coïncidence, c'est un signe. Voilà, c'est cette information que je voulais partager. Et je lis un texte maintenant, je lirai beaucoup des petits textes, je ne veux pas donner chaque fois exactement les références, mais c'est dans 1 Corinthiens 10. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. » Donc ça fait allusion aux Israélites qui étaient... à la sortie d'Égypte, qui était donc sous l'esclavage et qui sont sortis. Et puis plus bas, je lis « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction. » Alors c'est là que je souligne. Pourquoi c'est écrit la Bible? C'est pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est nous, aujourd'hui. C'est pour notre instruction. Balaam, vous savez qui c'est ce personnage étrange? Balaam, on le trouve trois fois dans le Nouveau Testament. Et je vous lis les trois fois. On le trouve dans 2 Pierre qui écrit « Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam. » La voie de Balaam. Ça c'est Pierre qui écrit. Plus loin, Jude, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Égarement de Balaam. Et finalement, dans l'Apocalypse, je lis « J'ai certaines choses contre toi, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Quand vous lirez ça, parce que maintenant on a ce programme de lecture, ça viendra pour novembre et décembre. Mais c'est clair, si on lit ça, honnêtement, on n'y comprend rien. Qui est Balaam ? On est obligé, et ça montre l'importance et l'unité de la Bible, d'aller voir dans l'Ancien Testament et de trouver cette histoire de Balaam qui se trouve justement à la suite de la sortie d'Égypte. Eh bien, moi, c'est ce que je veux faire ce matin. J'aimerais vous parler de cette histoire, mais en prenant le contexte, en reprenant le point de départ, à savoir les Israélites en Égypte. Si on y réfléchit, c'était une famille de 70 personnes qui sont allées un jour en Égypte et puis qui y sont restées. Normalement, une famille qui vient et qui s'installe dans un pays, ben, petit à petit, on est intégré, on fait partie du pays. Mais là, ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons, notamment parce que bon, ils ont pris de l'ampleur, c'est devenu 1 million de personnes, puis on les a utilisés comme esclaves, donc ils étaient toujours bien séparés. Et là, on lit un verset, je trouve un petit peu étonnant quand même, la manière dont c'est dit, c'est écrit « Dieu entendit leur gémissement à ses esclaves et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob ». Il se souvient tout d'un coup. Puis on a presque envie de dire, mais il avait oublié. Tout d'un coup, ah oui, j'avais fait une promesse. Il faut réaliser que la signification des mots dans la langue biblique, je veux dire, se souvenir, c'est peut-être pas tout à fait comme nous. Moi, cette semaine, quelqu'un me dit, ah oui, je suis la fille d'un tel qui venait où j'y crois il y a 50 ans. Puis moi, elle me dit le nom, mais... Ah ouais, je me souviens, j'avais oublié. Je me souviens, ah, ok, c'est bon. Nous, c'est un peu ça, se souvenir, des fois, on a un peu oublié. Là, dans la parole de Dieu, dans la Bible, se souvenir, ça ne veut pas dire, ah ouais, ça veut dire on actualise. C'est maintenant. Maintenant, ça va se passer. Et je trouve que c'est important de comprendre ce mot, parce que nous, chaque dimanche, on prend le repas du Seigneur, puis on dit, c'est pour se souvenir. Mais se souvenir, ce n'est pas juste... Ah oui, on oublie un petit peu, on nous le rappelle. Non, c'est pour dire, c'est l'occasion de proclamer quelque chose. Je prends ici une parole, par exemple, dans Colossiens, c'est écrit « Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Quand on prend ce repas, c'est l'occasion peut-être de dire, aujourd'hui, il y a aussi une domination, aujourd'hui, il y a aussi une pression, et on proclame cette victoire aujourd'hui. Donc, ce souvenir, c'est actualisé. Voilà. Après, vous connaissez la suite, hein, il y a eu des plaies en Égypte, donc il y a eu une pression qui a été mise sur Pharaon, par Dieu, hein, pour qu'il lâche, pour qu'il laisse partir ce peuple. Aussi dans le langage biblique, c'est bien gentil de dire « laisser partir », mais dans le langage biblique, c'est dû dire « d'envoyer », j'allais presque dire d'éjecter ce peuple loin. Et on pense, quand on a ces 10 plaies, ça nous fait penser un petit peu aux contractions qu'une femme peut avoir quand son enfant vient. Et si on prend Israël, c'était 70 personnes, tout d'un coup c'est 1 million, c'est le moment où ils vont naître, devenir un peuple. Et puis... J'allais dire, moi, j'ai pas vécu 5 naissances, mais j'ai vu, c'est Ruth qui a vécu, moi j'ai vu 5 naissances. Mais il y a une particularité, c'est que la dernière contraction, si tout se passe bien sûr, l'enfant, il est presque éjecté. Ouf, il faut presque le rattraper. Ça peut être très rapide. Et là, avec Israël, c'est ce qui se passe. Il sort et... ils sont éjectés et ils sont libérés de l'Égypte. Là, je voulais aussi un verset étonnant, peut-être auquel on ne fait pas attention, c'est que Dieu dit, je mettrai ainsi, avec cette expulsion, cette libération, je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Ça veut dire que nous, on a les yeux fixés sur les événements, sur ce qui se passe, sur la politique. Et là, tout d'un coup, on dit, attendez, il n'y a pas que ça. Il y a un côté spirituel, il y a des enjeux spirituels, ça se passe ailleurs, on n'y comprend pas grand-chose, mais dans cette expulsion d'Israël de l'Égypte, il y avait un jugement contre les dieux de l'Égypte. Et là, c'est aussi pour nous sensibiliser, d'être conscients de certains enjeux qui nous échappent. Et puis, alors après, ils se sont trouvés dans le désert, un peuple tout neuf, hein, et j'allais dire, et paf, il y a une armée qui vient contre eux faire la guerre. Mais ce peuple d'Israël, ils ne sont pas constitués, ils n'ont pas d'armée, ils sont simplement nombreux. Il y a 500 000 ou 600 000 hommes, plus tout le reste. Hein. Et voilà que c'est un Amalek, les Amalécites, ils viennent et ils viennent les combattre. Moi, ça me fait penser un tout petit peu en 1948, quand Israël, alors actuel, est né. Ils n'étaient pas encore constitués, il n'y avait pas le soutien des Américains, il n'y avait pas le soutien des Français, mais il y a cinq nations qui leur ont déclaré la guerre, avec un coordinateur qui a dit « on va vous massacrer ». C'est comme ça que c'est parti, alors qu'eux étaient paisibles. Et alors, pour reprendre Amalek, cette guerre s'engage, cette confrontation, et Moïse, qui était le leader, il monte sur une montagne avec son frère Aaron et Hur. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire sur cette montagne? Il va aller prier, c'est l'homme de Dieu. On se dit, ben, peut-être qu'il va monter, il va se mettre à genoux, il va fermer les yeux, il va joindre les mains, et puis il va dire, Seigneur, vois l'injustice, etc. C'est pas tout à fait ça. Il monte, il se met debout, il étend sa main, et qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Il avait un bâton. Ce bâton, il a un nom ailleurs, c'est le bâton de l'Éternel. C'est avec ce bâton qu'il y a eu des prodiges. C'est avec ce bâton qu'il a étendu la main et le bâton et que la mer s'est fendue et qu'ils ont traversé la mer. Et il vient là et il tend ce bâton. Et du haut de la montagne, qu'est-ce qu'on constate? À l'évidence, cette masse de gens, eh ben, Israël est en train de gagner et c'est la débandade chez Amalek. Mais voilà, la journée est longue. Et puis, je ne sais pas, j'avais déjà essayé de tendre les mains, ça se fatigue. Hein. Ah, ça baisse. Quand ça baisse, c'est l'inverse. C'est Amalek qui gagne. Catastrophe. Et là, Hur, le frère et l'autre accompagnant, voit le problème, se dépêche de trouver une pierre qu'il déplace, ils font asseoir Moïse, et puis ils lui soutiennent les bras. Et comme ça, le bras est de nouveau tendu, même les deux bras, avec le bâton. Et là, à la fin de la journée, la guerre est remportée. Et puis moi, des fois, je suis un petit peu curieux, parce que vous savez, c'est dit que ces bras, elles sont restées, vous savez quel est le mot qui est utilisé, en tout cas dans ma traduction. Donc, on l'a soutenu, et ses bras, ou son bras, c'est sa main, il a dit sa main, mais c'est tout l'avant-bras, est resté ferme. Et puis moi, des fois, je suis curieux, puis j'aimerais aller voir le mot d'origine. Comment ça se ferme, parce que c'est important. Et puis là, je vois, mais c'est Emouna. Oui, mais moi, je connais ce mot, j'ai déjà entendu en hébreu. Vous savez, en hébreu, les mots, le sens, la force, il y en a même qui disent l'esprit des mots, c'est trois consonnes qu'on repère facilement. Et quand un mot a ces trois consonnes, puis qu'un autre mot a aussi les mêmes trois consonnes, il y a un lien. Alors, je vous donne ces trois consonnes de Emouna. Alors, le premier, bon, je vous donne en hébreu, c'est Aleph. Le problème, Aleph, ça donnait A en français. Mais comme c'est une consonne en hébreu, ça ne se prononce pas A. Ça se prononce comment? Ben, ça ne se prononce pas. Vous mettez Aleph, il n'y a pas de son. Ou peut-être E. La deuxième lettre, c'est plus simple, c'est M. Puis la troisième lettre, c'est N. Si maintenant je vous donne ces trois consonnes, ça ne veut rien dire, mais si je vous dis Amen, amen. Ça vous fait penser à quelque chose? Amen. Amen. Amen, c'est un mot hébreu qui a exactement ces trois consonnes. Et puis si on dit aman, ça veut dire il a cru, c'est le verbe croire. Et emouna, c'est exactement ces consonnes. Et puis là, on voit que c'est écrit ferme. Et en regardant ces mots, la dernière fois qu'on le voit dans l'Ancien Testament, je pense que vous connaissez peut-être ce verset, c'est dans Habakkuk. Peut-être que vous allez dire, comment je connais ce verset Habakkuk, je ne savais même pas qu'il y avait Habakkuk dans la Bible. C'est vraiment... Mais je vous dis le verset, c'est « L'homme vivra par sa émouna ». Et ça a été repris dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que veut dire émouna? L'homme vivra par la foi. Et donc, on voit que émouna, c'est la foi, mais c'est aussi ferme. Puis on se dit, mais attends, il faudrait savoir, parce que nous, on dit soit c'est spirituel, soit c'est hein, spirituel, c'est bien. Ce qui est... Mais on voit, dans l'hébreu, ce n'est pas seulement les mots, mais c'est ce lien entre le ciel et la terre. Il y a une communion, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et Emouna, c'est à la fois un mot terre à terre, et puis c'est à la fois un mot spirituel. Et puis ça parle, quand on voit Moïse avec ce bras qui reste ferme, c'est une expression de foi, et dans ce sens-là, c'est parlant. Et puis, donc, ils ont gagné. Il y a aussi un petit verset intéressant par rapport à cet Amalek. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel et mon étendard. Je pense à ce bâton hein, aussi. Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Donc, on a une guerre très physique. Puis à la fin, on dit oui, mais c'était contre le trône de l'Éternel. Donc, toujours avoir un peu cette notion que tout ne se passe pas que ici. Puis vous allez me dire, ouais, puis Balaam. Ce n'était pas Balaam le sujet. Alors, j'y viens. C'est vrai que j'ai pris d'abord ça, mais Balaam, ça vient un peu plus loin. Ça veut dire que quelques années après, parce qu'on sait qu'ils sont restés assez longtemps, Israël, les Israélites devaient passer pour approcher de la terre. On dit la terre promise. Moi, il me semble que je vois toujours la terre donnée. Peu importe. Hein. Ils approchent de cette terre donnée par Dieu. Et puis, ils doivent passer par un pays qui s'appelle le pays des Moabites. Les Moabites. Et ils demandent le droit de passage. Ils envoient une délégation. Est-ce qu'on peut passer? On dit non. Aucune compassion pour ce peuple. On n'a rien à faire. Et puis, Israël a été bloqué. Et le roi de ces Moabites, il s'appelle Balak. Et Balak, il s'est dit, il faut qu'on les stoppe, ce pays. Il faut aussi qu'on les attaque. Le problème, c'est qu'ils avaient vu plusieurs autres pays, donc Amalek et d'autres armées, qui avaient perdu. Ils ont dit, Israël est trop fort. On ne va pas y arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut trouver une combine, une astuce pour quand même faire tomber ce pays. Je pense que... Ouais. Aujourd'hui, il y a des situations similaires, mais bon. Donc, il faut une astuce, et l'astuce consiste à se dire, il faut jeter un sort. Et il connaissait quelqu'un qui habitait bien loin, peut-être même qu'il était de la famille ou en lien avec ce pays. Et puis, c'est là qu'on arrive à Balaam. Balaam, il habitait, je ne sais pas, peut-être en Irak, par là-bas. Et Balaam, c'était un gars qui était connu pour être... En fait, la Bible ne donne pas trop de descriptions, donc moi, je ne sais pas très bien comment vous le décrire, mais il était étrange parce qu'il connaissait Dieu, bah ouais, il connaissait Dieu, mais il aimait bien aussi faire des... Je ne sais même pas, il est parlé de magie aussi, et il était apte à jeter des sorts, et ça fonctionnait. Et donc, il a envoyé une délégation vers Balaam en lui disant, viens, il lui donne beaucoup de cadeaux, et puis viens dans mon pays et il faut maudire, il y a un peuple là qui ne me plaît pas trop. Et puis, ce Balaam sent que c'est quand même un gros morceau, et il dit, ouais, mais là, je dois un petit peu consulter quelqu'un avant. Et il dit, passez la nuit là, et la nuit, il a une révélation, Dieu lui dit, mais ce peuple est béni, tu ne peux pas le maudire. Et donc, j'allais dire zut, certainement, il était très déçu, mais il a senti que là, ça ne passerait pas. Il a dit au délégué qui était venu de Balak, il a dit, non, rentrez chez vous, ça ne fonctionne pas, je ne peux pas. Et le roi, quand il a reçu ça, il a renvoyé une délégation encore plus nombreuse, avec des cadeaux encore plus fastueux, en disant, mais allez, quand même, viens. Et puis, ah, c'était tentant. Mais voyons, moi, je ne peux quand même pas faire... Après tout, ça ne coûte rien de demander une deuxième fois, vous êtes d'accord? Il demande, hein? Et il demande, puis là, étonnamment, c'est Dieu qui parle. Il dit, ok, vas-y. Vas-y, mais tu diras ce que je te dirai. Oui. Tout content, il part le lendemain. Il n'a pas réalisé que Dieu était extrêmement fâché, qu'il n'ait pas compris et qu'on insiste, et que Dieu allait glorifier son nom. Et il part avec... c'est là que maintenant, l'histoire elle devient très intéressante pour les moniteurs d'école du dimanche, parce que ça, c'est l'histoire qu'on aime bien raconter, parce qu'il y a une ânesse dans l'histoire. Il est sur son ânesse qui va vers le pays, et voilà qu'il est dans un champ, il y a un sentier, et l'ânesse, elle s'arrête pas, non, elle passe à côté, elle va sur le champ. Et puis, là, il prend son bâton... Attendez, je vais vous dire, il prend son shtetl et il schlag. Là, vous comprenez ou bien ça, c'est le langage. Bon, il bat son âne. C'est quand même, ouais, c'est un peu triste si on y pense. Hein. Et puis, il continue, il arrive dans un sentier dans les vignes comme on a ici, hein, sous les coteaux, donc il y a des petits murs, il y a un chemin, etc. Et il arrive là, et l'ânesse, de nouveau, elle se comporte bizarrement, elle se met contre le mur, tout près, puis lui, là, avec sa jambe, il est en train de chevaucher, il se fait « Ah !» Mais qu'est-ce qui se passe? Il la schlague de nouveau, mais à fond, hein, il la bat et tout. Il est fâché, et finalement, il se retrouve dans un chemin creux, où là, il n'y a que l'ânesse, et celui qui chevauche, qui peuvent passer, et là, paf, elle se couche par terre, elle ne bouge pas. Mais lui, il était hors de sens et fâché contre cette bête. Et là, Dieu fait quelque chose, et c'est pour ça que les enfants d'école du dimanche aiment bien, mais c'est vrai, Dieu donne la faculté exceptionnellement à l'animal de parler. Et qu'est-ce qu'elle dit, l'ânesse ? Pourquoi ? Pourquoi tu me bats? Ouais, ben moi, je te bats parce que tu t'es... Enfin, on imagine comment on peut injurier un animal. Dit, si j'avais un fusil, je te flinguerais, puis je te tuerais. Puis l'ânesse dit, mais il y a longtemps que je suis à ton service. Est-ce que j'ai l'habitude de faire comme ça? Ben non. Et là, il y a une révélation. Ses yeux s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire l'envoyé de l'Éternel avec une épée à la main. Et là, vous imaginez la terreur de Balaam, hein, qui n'avait pas réalisé ça. Et cet ange lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit, vous pensez? La même chose, il dit, pourquoi tu schlagues ton ânesse? Pourquoi tu bats, tu tapes sur ton âne? À la fin, on se rend compte, il faut quand même le dire, on est des humains à l'image de Dieu, mais un animal, ce n'est pas une chose. Il y a un respect aussi à avoir, réciproque, j'allais presque dire. Et on ne traite pas comme ça un animal. Et c'est la question, pourquoi? Et après, l'homme de Dieu ou l'ange dit, Stan, je ne l'aurais jamais touché, mais s'il passait tout droit, ou quand même, toi, je te tuais. Balaam. Là, ce n'est pas un roman, la Bible, simplement, il y a des faits qui sont décrits, mais si on en faisait un roman, je pense qu'on pourrait dire qu'il a fait dans ses pantalons. Hein, là. Il doit avoir une terreur, vous imaginez? Et il lui a dit, maintenant tu vas, mais tu vas dire ce que l'Éternel te dit. J'aime mieux vous dire qu'il allait, parce qu'il ne pouvait même pas reculer, mais là, il savait qu'il allait dire exactement ce que Dieu allait lui dire. Il est arrivé, Balak... Père Balak, puis ma foi, il lui a dit, je ne pourrais pas dire autre chose. Hein. Mais il monte sur une montagne pour maudire ce peuple d'Israël. Alors là, je rouvre quand même ma Bible. Et voilà que Dieu lui dit de dire cela, et je le lis. C'est Balaam qui parle, il dit, « Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité ?» Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple, Israël, qui habite à part, qui ne fait pas partie des nations. Et là, Balak, il est devenu franc fou contre Balaam. Il dit, ouais, Malkot, je te dis de le maudire quand même. Maintenant, tu les bénis, ça ne va pas. On pourrait dire, ben oui, l'affaire est claire. Mais non, ils réessayent, ils vont sur une autre colline. Et Balaam avec, hein, c'est quand même un numéro, hein. Et il fait quand même des pratiques un petit peu, comment est-ce que c'est mis ici, des pratiques magiques. Hein. Et puis, ça ne marche pas. Mais de nouveau, il doit dire exactement ce que Dieu dit. Et la deuxième fois, il dit, que je retrouve, hein, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir et il a béni. Je ne révoquerai pas sa décision. Il n'aperçoit pas de mal dans Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, ton Dieu, est avec lui. Il ne voit pas d'injustice en Israël. Puis si vous avez lu l'Ancien Testament, puis avant, vous dites, oui, mais Dieu, il est aveugle. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de mal dans Jacob. Non, mais c'est une catastrophe ce qui se passe là dans le désert. J'allais dire, c'est les gilets jaunes. Ils se sont révoltés contre Moïse. Ils ont presque voulu le tuer. Ils se sont révoltés contre Dieu, Israël. Bon, ils avaient vu les miracles, mais ils n'avaient pas la connaissance que vous avez. On est d'accord, mais quand même, ils ont fait des foires. Ils ont dansé devant des dieux étrangers, Israël, dans le désert. Qu'est-ce qu'on vient raconter ? Dieu ne voit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice. Demandez-moi, moi je ne peux pas vous donner la réponse. C'est un fait. Et Dieu, il n'a pas dit un mensonge. Dieu, il dit la vérité. Et peut-être qu'on pourrait dire, nous aussi, des fois, nous, on dit, ah, je suis pécheur, mais je sais que je suis justifié. Alors, voilà, il y a des choses un peu bizarres, mais c'est comme ça. Et puis, il y a peut-être aussi autre chose, c'est que Dieu, il parle à son peuple, que ce soit à Israël, que ce soit à nous. Et des fois, il y a des prophètes qui viennent nous dire des choses, ce n'est pas toujours agréable. Ça, c'est en ordre. Mais quand on n'est pas mandaté, quand on n'est pas du peuple, parce que souvent les prophètes, ils étaient du peuple, ce n'est pas aux gens d'aller de l'extérieur, d'aller faire trop la morale. Bref, en tout cas, là, il était mal intentionné, Balaam, et Dieu l'a entièrement empêché. Il a essayé encore une troisième fois, ça n'a pas fonctionné. Et tout d'un coup, il a eu une révélation, Balaam. Il dit, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Quand on a la sensibilité, quand on connaît Jésus, on se rend compte qu'il y a une annonce de quelqu'un qui va venir un jour vraiment changer les choses. Voilà. Et puis après, je tourne la page, l'histoire se termine. Balaam se leva, partit, retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Voilà, tout est bien, enfin, pour qu'il se termine. Puis on se dit, ah, ok. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. Parce que c'est vraiment un tordu, Balaam. Hein. C'est quand même un tordu. Et là, c'est en tournant les pages que tout d'un coup, on voit qu'il est dit quelque chose peut-être qu'on ne comprend pas non plus tout à fait. Il dit, ce sont justement elles, des filles, en fait, c'était des prostituées, qui ont été, donc ce sont justement elles, sur le conseil de Balaam, elles ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel. Donc Balaam, il n'a rien pu faire, mais il a donné un mauvais conseil. Et ça, ça marchait. Et c'est ça qu'on retrouve, que vous lirez au mois de décembre, où il est dit, j'ai certaines choses contre toi, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Et là, ça a de nouveau été un coup de frein terrible. Voilà, c'est un peu ces choses-là qu'on peut voir quand on lit la Bible, quand on voit ces histoires. Et je me suis dit, on a vu que ces choses étaient écrites au début pour être une instruction pour nous. Et puis, je vais terminer en lisant un texte qui dit un petit peu la même chose, mais j'ai vu ça, donc c'est Jean Calvin, il y a 500 ans, et c'est dans le cours de Philippe, vous savez qu'il y a un cours qui est donné, un cours biblique. Et dans le premier cours, il y a une ou deux semaines, je n'étais pas là, mais j'ai vu le papier. Et ça traitait sur la Bible, hein, sur les livres de la Bible. Et là, il est dit, oh, c'est que je retrouve ce papier de Jean Calvin, il dit la parole de Dieu, que ce soit celle-là, que ce soit celle que moi maintenant que je donne oralement, la parole de Dieu n'est point pour nous apprendre à babiller, dit-il, hein, pour nous rendre éloquents ou subtils, mais pour réformer nos vies. Jean Calvin, qui est un réformateur, qui a réformé l'Église, il dit l'important, c'est de réformer nos vies. Et c'est pour ça que ces histoires sont là. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu donner ce matin ces réflexions. On dit maintenant, ah, il faudrait récapituler et puis donner deux, trois points. Je ne sais pas bien quoi vous dire. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette émouna, cette foi, de se tenir devant Dieu et de déclarer les choses. Voilà, c'est ça. Et puis, avec Israël, prudence quand même. Bien, ben, je prie. Eh bien, oui, Seigneur, je viens par la prière m'adresser à toi. Et puis, on a vu Israël il y a 3500 ans, il y a Israël aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas tous la même chose, mais j'aimerais te dire de bénir ce peuple. On n'est pas là pour maudire, on est là pour bénir. Et je bénis Israël, et Seigneur, je dis oui, révèle-toi à eux. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se réveillent, il y en a beaucoup qui sont sensibles. On ne le voit pas, mais on les entend quand on parle avec eux. Mais la révélation, tu t'es révélé un jour à Paul, il était terriblement du mauvais côté, mais une révélation de Jésus et tout a changé. Et il y a une promesse, il y a la promesse qu'un jour tu vas te révéler. Eh bien, ma prière, révèle-toi à eux et qu'ils soient bénis. Et c'est en bénédiction pour le monde entier. Et je te prie aussi pour nous, que nous puissions marcher humblement avec toi, comprendre ta parole, réaliser qu'il y a du spirituel dans toutes ces choses et que nous soyons vainqueurs au nom de Jésus. Amen.